Vous écoutez
RMC. RMC, Charles Matin.
6h moins le quart sur RMC, la bande de Charles Matin est là en studio. Alex Biggerstaff qui va nous parler d'un record battu par un tennisman français aujourd'hui. Anthony Morel qui va nous aider à ne pas nous faire voler notre voiture, ça peut être utile. Et puis Géraldine également qui va nous parler de culture et de dessin animé avec des petits bonhommes jaunes. Et ce ne sont pas les mignons. Donc. on est d'abord en ligne avec Laurent qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Laurent.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour. Salut Laurent. Salut Laurent.
Ça va Laurent ce matin?
Très bien, merci. Ça très bien.
C'était quoi votre dernier voyage, Laurent?
À Rome, justement. On est parti une semaine à Rome. Exactement. On est rentré de Rome vendredi. On est parti à 5 personnes, c'est-à-dire ma femme, mes enfants et ma sœur. Uh-huh. On a passé 5 jours à Rome. Et quand je vous écoutais par rapport à Venise, en sachant qu'à Rome, on a une taxe de séjour de 5 euros par jour. Malgré qu'en plus on y couchait, on a passé, donc ça nous a coûté quand même pas mal. 20 euros par jour pour moi et puis 5 euros pour ma sœur. Mmh. Alors que toute la semaine, on laisse notre argent au restaurateur, tous les sites touristiques sont payants et ainsi de suite. Mais pourtant, je pense que ça va se banaliser parce que.
Va se banaliser, c'est cette taxe. On va le repréciser, mais Venise qui met en place dès aujourd'hui une taxe de 5 euros pour les touristes d'un jour, ceux qui ne dorment pas dans la ville. C'est trop pour vous?
Moi, je trouve que c'est déjà pas mal parce que. Alors, les gens qui dorment pas et les gens qui dorment, est-ce qu'il y a une taxe de séjour également? Je crois que ça va revenir au même en fin de compte. Ça va revenir au même et puis ça va leur apporter, parce que je ne pense pas que ça va freiner le tourisme, je suis pas convaincu.
Vous avez trouvé qu'il y avait du monde, vous avez pu en profiter.
Il y avait énormément de monde. Alors je sais pas si on est passé par la mauvaise période, mais en même temps on s'est basé sur les vacances scolaires et c'était énorme. On a visité le Vatican, tout ça, c'était énorme.
Ça gâche un peu le plaisir.
Ça gâche le plaisir, oui, parce que on est comme un troupeau, on suit, et ça fait pas pareil.
Mais donc ça pourrait être une bonne idée, cette taxe de 5 euros?
Je suis pas convaincu. Bonne idée ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va leur apporter encore plus. Mmh. Après, est-ce que ça va freiner le tourisme? Peut-être pour certains, mais je suis pas convaincu. Quand on a l'idée d'aller visiter quelque chose, je ne sais pas si ça freine.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour limiter le surtourisme? Alex Biggerstaff, on en parlait hors studio. Tu me disais tout à l'heure, je suis jamais allé à Venise. J'aimerais bien y aller, mais pas dans ces conditions-là.
Oui, c'est ça. En fait, découvrir des endroits, mais il y a certains, pas tous les endroits dans le monde, mais certains endroits très connus où on n'a pas envie d'être en fait au milieu d'une foule immense partout où tu vas.
Ça gâche un peu le.
Ça rend pas les vacances
faire, Laurent,
de la même
quoi,
manière.
Mettre des quotas en place comme on a fait par exemple dans le Sud-Est, dans les Calanques.
Presque, il faudrait faire ça, effectivement, parce que il faudrait gérer comme dans un stade. Vous avez 80 000 places, et il y en a 80 000 qui rentrent, il n'y en a pas plus. Et puis, un système. Alors, le Vatican, je prends l'exemple du Vatican parce que j'y étais. Vous avez des rentrées de personnes toutes les demi-heures. Mais arrivé à un moment, les gens qui sont à l'intérieur ne sortent plus. Ça devient épouvantable. Mais après, je peux comprendre pour la ville, arrivé à un moment, oui, il faudrait peut-être mettre des quotas et puis,
Vous aussi, appelez-nous au 3216 pour nous proposer vos solutions face au tourisme de masse. Est-ce qu'une taxe à 5 euros est une bonne idée? Est-ce que vous serez prêt à la payer, cette taxe? Venez nous appeler au 3216. Vous laissez également vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio. Laurent, on va parler de tennis. Ça vous intéresse, le tennis? Vous aimez bien ça?
Ouais. Un petit peu, oui, je regarde surtout quand c'est les Français, c'est Roland Garros, quand c'est voilà.
Figurez-vous qu'un Français va réaliser une performance très rare, Alex Biggerstaff, puisque un Français donc se prépare aujourd'hui à disputer son 1000e match en carrière.
Et merci d'avoir tenu secret le nom, Martin. Tout a commencé le 15 avril 2002 pour lui.
Il est Français, Richard Cassier. Il s'est imposé pour ce match à celui qui est placé aujourd'hui 50e à la course des champions 2002, l'Argentin Franco Scudaro.
Eh oui, Richard Gasquet, c'était sur le central de Monte Carlo face à l'Argentin Franco Squillari en 2002 déjà, dégoûté d'avoir perdu d'ailleurs face à un môme de 15 ans et 10 mois en polo rouge. Cet après-midi, il sera opposé au premier tour du Masters 1000 de Madrid à un Italien, Lorenzo Sonego. Entre-temps, 22 années ont défilé avec 998 matchs supplémentaires.
Tiens, donne-nous un petit coup de vieux là, c'était qui les joueurs phares du circuit en 2002?
Alors, il y avait l'Australien Leighton Hewitt qui était numéro 1 mondial, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero ou encore André Agassi, plus proche de la fin de carrière. Là où Gasquet a pas eu de bol, c'est qu'à cette époque, un petit Suisse de 20 ans commençait à percer et un ado espagnol au biceps de catcheur disputait lui aussi son premier match pro. Je vous laisserai deviner au niveau des prénoms. Tout jeune, malheureusement, Gasquet était annoncé aussi comme un futur très grand, sans doute une grosse pression sur ses épaules. Il avait un style de jeu très élégant. Malheureusement, de nombreuses blessures ont orienté la trajectoire de sa carrière, même s'il s'en sort pas trop mal au final. 16 titres en simple sur 33 finales disputées et deux demi-finales de Grand Chelem. Troisième Français le plus titré en simple derrière Yannick Noah et Jo-Wilfried Tsonga.
Et il dispute donc son 1000e match en carrière aujourd'hui. C'est rare, très rare dans le tennis.
Ben pour preuve, ils ne sont que 8 avant lui à avoir franchi ce cap symbolique. Jimmy Connors, Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore John McEnroe. C'est sympa ça comme va, cercle. Va, ouais. Pour ne citer que sa meilleure année, il l'a connue en 2013 avec 50 succès et aussi le buzz du hashtag Richard 2013 sur Twitter quand c'était encore un endroit sympa. Tout à l'heure, face à Lorenzo Sonego, il va viser une 105e victoire à bientôt 38 ans. 605e victoire à bientôt 38 ans. Même s'il déteste le surnom de petit Mozart du tennis, Richard a réussi à nous donner de l'espoir pendant 22 ans et Dieu sait que l'espoir fait vivre. Ça explique sans doute cette longévité remarquable.
20 ans déjà de carrière pour plus de 20 ans, même 22 ans de carrière pour Richard Gasquet. Ça nous rajeunit pas tout ça.
Ouais. Je crois que c'était un des joueurs préférés en fait du public français. C'est peut-être le cas de Laurent, je sais pas.
Ouais, bah écoutez, on va voir Laurent, il a un petit problème avec son téléphone, il nous a
c'est l'émotion.
Ouais, on va essayer de le rappeler Laurent pour le faire réagir. Tiens, peut-être au propos d'Anthony Morel. Anthony, tu nous parles de vol de voiture aujourd'hui. Un vol de voiture a lieu toutes les 4 minutes en France. 140 000 véhicules volés l'an dernier, c'est plus 5% sur un an. Est-ce que la tech et l'innovation peuvent nous aider?
Oui, nous aider. Alors, il n'y a pas de solution magique, évidemment, mais il y a quand même des innovations qui vont permettre, alors, à la fois de prévenir les vols, on va y revenir dans une seconde, mais aussi de retrouver les voitures volées de manière quasi systématique, ce qui est quand même pas mal non plus. L'une des solutions, c'est d'utiliser tout bêtement un tracker GPS, comme pour les smartphones qui permettent de géolocaliser la voiture. Mais un tracker GPS, écoutez bien, qu'on va cacher dans la voiture à un endroit que même vous ne connaissez pas. Ça, c'est un service qui est proposé notamment par Coyote. On les connaît pour les détecteurs de radar, vous savez, tout ça, et ben là ils ont lancé un service qui permet en fait de cacher des petits boîtiers de la taille d'une boîte d'allumettes dans la voiture avec à l'intérieur des capteurs GPS, GSM et autres. Donc on les met, c'est un installateur qui fait ça, on vous dit même pas où, donc à l'intérieur des sièges, ils sont cachés un peu partout, vous n'êtes pas censé les chercher de toute façon. Et en cas de vol de voiture, ben vous appelez et un service spécial de chasseurs va aller chercher votre voiture. C'est des anciens des forces de l'ordre qui vont la géolocaliser grâce à ces boîtiers. Quand ils s'approchent, ils ont une application chaud-froid qui leur indique s'ils s'approchent ou s'ils s'éloigne, même au fin fond d'un parking souterrain, on va pouvoir la retrouver au mètre près. Et là, évidemment, ils n'interviennent pas tout seuls, ils appellent les forces de l'ordre. Ils se vantent de retrouver comme ça plus de 90% des véhicules volés en 48 heures chrono. Ah, c'est énorme. Ah, c'est là où génial. D'habitude, en gros, quand tu te fais voler ta voiture, tu as 6 chances sur 10 de ne plus jamais la revoir. Et d'ailleurs, ils ont passé des partenariats avec des assureurs, parce qu'évidemment, c'est plus rentable pour les assureurs que vous vous équipiez de ce genre de dispositif. Exactement. Alors, ça coûte quand même 250 euros à l'installation, et après, c'est des abonnements autour de 10 euros par mois. Donc, c'est un investissement.
Ouais, c'est l'abonnement après.
C'est après l'abonnement qui fait un peu mal.
C'est ça. Bah après, ça évite de devoir racheter une voiture dans les jours qui suivent. Ça peut quand même aider. L'idéal, Anthony, serait quand même d'éviter carrément le vol.
Alors là aussi, on a des innovations assez intéressantes qui sont en train d'arriver, et notamment la reconnaissance faciale du conducteur. C'est-à-dire que la voiture, elle est capable de reconnaître son propriétaire, et si c'est pas lui, elle démarre pas. Elle s'ouvre pas, et elle démarre pas. Comme pour les smartphones, là encore, les voitures, c'est des smartphones sur roues, donc on va intégrer. Mais c'est vraiment ça, en fait. En réalité, on va intégrer des caméras. Alors il y en a une qui va se placer dans le montant central, donc entre la portière avant et la portière arrière, une autre au niveau du tableau de bord. Vous vous approchez de la voiture, il n'y a plus besoin de sortir les clés, elle va s'ouvrir toute seule parce que c'est vous. Et une fois au volant, même chose pour démarrer, vous montrez votre visage à une deuxième caméra. Alors c'est paramétrable évidemment, on peut aussi donner l'accès à son conjoint, sa conjointe, ses enfants, un ami. Mais normalement, même si on montre une photo de vous par exemple devant la caméra, ça ne fait pas démarrer la voiture. Et là aussi, c'est une technologie qui est quand même assez intéressante, puisque là, si vous avez une tentative de vol, la voiture, elle ne voudra pas partir, tout simplement.
Sauf si t'es en retard le matin, que t'as pas eu le temps de te coiffer à la tente.
T'es pas reconnu, t'as pas reconnu. Mais si, c'est moi, je te dis.
Laurent, qu'on a retrouvé au 32-16, c'est rassurant tout ça, là, quand la tech veut nous aider à éviter les vols de voitures.
C'est rassurant si ça fonctionne, parce que j'ai toujours l'impression que les voleurs, ils ont un temps d'avance quand même.
Ça, c'est vrai, c'est un jeu de chaîne, la souris. Ça, c'est
si
ça, parce que la si tech est aussi les voleurs.
Oui, mais ça fonctionnera et puis ils arriveront bien à détourner tout ça. De toute manière, tant mieux pour tout le monde. Mais je pense qu'ils auront un temps d'avance aussi. Donc,
La tech les aide aussi, mais c'est vrai qu'on peut trouver des solutions pour éviter ces vols de voitures. Ça peut aider, 140 000 véhicules volés l'été dernier. Géraldine, ton bonus. Aujourd'hui, tu nous parles de la série culte Les Simpsons qui est en deuil.
Bah ouais, je vais vous spoiler un petit peu. Un des personnages des Simpsons est mort.
Non. Oh non, non.
Lequel?
Mais attends, voir. Il y a quelque chose qui me tracasse dans cette boîte.
Non, c'est pas Homer, je te rassure quand même.
Il n'y a plus de
série
après.
Non, c'est un de ses compagnons de beuverie, Larry, qui est décédé dans l'un des derniers épisodes diffusés. Vous voyez qui c'est, Larry?
Ouais, ouais. Mais il n'avait pas une hygiène de vie extraordinaire.
Exactement.
Non plus. Je m'étonne qu'il ait vécu aussi longtemps.
Ça pouvait lui arriver, ouais.
Figure-toi qu'il est présent depuis le début de la série, et pourtant il a parlé seulement dans deux épisodes, en 35 saisons. Larry, effectivement, on le voit dans pratiquement toutes les scènes qui ont lieu à la taverne de Mo, le bar préféré d'Homer. Et comme souvent dans les Simpsons, sa mort va permettre de soulever des questions de société. Puisque Larry décrit Homer et ses compagnons comme ses meilleurs amis, et eux, ils se rendent compte qu'ils connaissent rien de lui, donc ils vont essayer de se rattraper en allant disperser ses cendres à un endroit qui lui était cher. La suite, je vais vous la laisser découvrir quand même, hein. C'est dans l'épisode 15 de la 35e saison donc des Simpsons.
Oh, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire?
Ouais.
Oh, tu le fais bien,
c'est pas mal, on va réussir à faire un truc tous les deux. Bon, allez, les Simpsons, ça reste cool. 35 saisons quand même.
Impressionnant.
J'adore. Merci beaucoup à tous les trois. Merci également à Laurent qui nous a appelé au 32-16 pour participer à ce tour de table. 5h56 sur RMC. On se retrouve dans un instant également sur RMC Story à la télé pour la météo et le journal.
RMC, 5h, 6h30. Charles Matin.